Le commandant était sidéré. Il avait pensé à tout sauf à cela, une arme. Voulait-elle se suicider? Il la regarda avec stupeur. Était-il possible que depuis 2 ans la douleur ne l'ait pas quittée? Qu'elle soit restée si violente? Cela signifiait que depuis 2 ans, chaque jour, elle n'avait fait que souffrir. 2 années de tristesse insurmontée et le suicide au bout. Au fond, elle était morte à l'instant où le corps de son enfant avait plongé dans l'eau avec ce bruit obscène qui avait troué le silence. Elle était morte, mais il lui avait fallu 2 ans pour en finir vraiment, 2 ans d'attente et de fatigue, à ne pas avoir la force de vivre, ni celle de se supprimer. Et maintenant, elle lui demandait une arme pour en finir. Le commandant Piracci fut ramené d'un coup à la violence et à la brutalité de cette réalité. L'idée que son pistolet puisse servir à défoncer le crâne de cette femme lui répugna. C'était comme si elle lui demandait de le faire lui-même. Qu'elle aille trouver cette arme ailleurs. Ce n'était pas ce qui manquait à Catane, il suffisait d'avoir un peu d'argent. Soudain, une autre idée le traversa. Elle était peut-être folle. Une démente que le malheur avait brisée. Qui sait ce qu'elle ferait avec une arme? Elle commencerait peut-être par s'en servir contre lui. Puis elle errerait dans la foule, tirant au hasard sur les passants. Il fallait qu'elle sorte de son appartement plus vite. Il en était persuadé que cette femme était dangereuse. Il était sur le point de se lever pour lui demander de partir lorsqu'elle lui dit « Ce n'est pas ce que vous croyez, commandant. » Sa voix était douce, réfléchie. Elle avait certainement lu son trouble et peut-être même suivi le cheminement de sa pensée, de la stupeur à la panique. Elle parlait avec un calme qui l'apaisa. « Si j'avais voulu mourir, j'aurais eu mis l'occasion de le faire. » Le commandant ne savait plus que penser. Cette femme l'intriguait. Que voulait-elle? Que cachait-elle? Il n'en avait pas la moindre idée, mais la curiosité s'était désormais emparée de lui. « Pourquoi voulez-vous une arme ? » demanda-t-il. Elle cligna des yeux, respira profondément et posa une question. « Que savez-vous du Vittoria, commandant ?» Cette question à nouveau le désarçonna. Il ne voyait pas le rapport qu'elle pouvait avoir avec sa propre demande. Mais il y répondit, acceptant les méandres qu'imposerait la femme dans la conversation, sûr que c'était à ce prix qu'elle finirait par tout dire. « Pas grand-chose, répondit-il. Ce que les journaux italiens en dirent quelques jours après le sauvetage. Il battait pavillon ouzbek, mais il avait été affrété au Liban. L'équipage en fuyant ne pouvait pas ignorer qu'il vous condamnait à mort, ou du moins à la dangereuse incertitude du hasard. Puis il ajouta, « Cela arrive, de plus en plus souvent. Des bateaux remplis à craquer dans un état de vétusté totale jetés à la mer et qui dérivent en attendant la mort. Les passeurs se paient et abandonnent leurs clients en pleine mer. J'en ai vu d'autres de ces navires et certains sont silencieux lorsque nous les abordons d'un silence horrible que l'on reconnaît tout de suite. » Le commandant se tut pour ne pas laisser l'émotion le submerger. La femme ne l'avait pas interrompu, mais elle parla juste après lui pour lui éviter la gêne d'un silence dans lequel on aurait pu l'entendre ravaler ses pleurs. « J'ai fait comme vous, commandant, dit-elle. Après notre sauvetage, je me suis fait lire et traduire les articles qui parlaient de nous. Je les ai conservés et plus tard, lorsque j'ai su parler italien, j'ai fait mes propres recherches. J'en sais un tout petit peu plus que vous, commandant, et permettez-moi de vous donner ces informations supplémentaires. » Le Vittoria a effectivement été affrété à Beyrouth. Je vous ai raconté l'embarquement. Chaque place à bord a coûté 3 000 $. Moi, j'ai dû payer 4 500 $ à cause de l'enfant. L'équipage était composé pour la plupart de Libanais et le bateau a été affrété par un dénommé Hussein Marouk, un homme d'affaires véreux, proche des services secrets syriens. Quand je dis affrété, commandant, cela signifie que c'est lui, Hussein Marouk, qui a trouvé le bateau, l'a acheté et l'a mis à disposition des passeurs, moyennant un pourcentage sur les bénéfices. C'est lui qui a fixé le nombre de passagers qu'il fallait et qui a donné l'ordre d'abandonner le navire. Car c'était convenu ainsi. Les hommes qui nous ont fait monter à bord savaient qu'ils nous abandonneraient en pleine mer. Savez-vous la raison de tout cela, commandant? Ce n'est pas le profit. Au contraire, Une opération comme celle-ci va à l'encontre de la logique commerciale. Le navire est perdu. Si Hussein Marouk avait été un simple passeur, il aurait ordonné à l'équipage de nous déposer le plus vite possible, puis de revenir pour charger à nouveau le bateau. Combien d'hommes font en ce moment des fortunes colossales avec ce trafic? Mais ce n'est pas ce que voulait Hussein Marouk. Il voulait que nous dérivions. Il voulait que nous nous échouions sur une plage européenne et que cela fasse la une des journaux. C'est un combat politique. L'Europe hausse le ton contre la mainmise de la Syrie sur le Liban en réponse. Damas affrète un navire de crève-la-faim qu'il lance à l'assaut de la forteresse européenne. On pourrait presque appeler cela du langage diplomatique. C'est cela que disait le Vitoria aux autorités européennes. Laissez-nous tranquilles ou nous nous faisons fort de vous envoyer un Vitoria par semaine. Le commandant le regarda avec gravité. Ce qu'elle venait de dire était plausible, mais il lui semblait qu'elle se perdait en tentant de plonger dans l'analyse de ses stratégies sombres. « Vous trouverez toujours des hommes pour exploiter la pauvreté et l'urgence, » dit-il. « Je fais une distinction, commandant, » répondit-elle, « entre le passeur qui prend à son client ses derniers deniers mais l'amène à bon port et celui qui affrète un bateau dont il sait qu'il n'arrivera nulle part. Ils nous ont envoyés sur la mer, comme on envoie à son ennemi un paquet contenant un animal mort, et nous avons payé notre mort. » Les hommes comme votre Hussein Marouk, reprit le commandant, finissent généralement avec une balle dans le crâne, pour les mêmes raisons que celles qui lui font aujourd'hui affréter des cercueils flottants, les relations diplomatiques entre nations. Au prochain réchauffement des relations entre Bruxelles et Damas, on retrouvera votre Hussein Marouk égorgé dans sa salle de bain. Cela sera interprété comme un gage de bonne volonté de la part des Syriens. Il mourra comme un rat, de la main même de ceux qui l'invitent en ce moment dans de somptueux hôtels pour qu'il se sente important. Salvatore Pieracci avait parlé en espérant qu'il puisse y avoir dans ses augures de quoi apaiser la haine de son interlocutrice. Hussein Marouk mourrait de mort violente, c'était certain. Rien ne servait de s'en occuper. Mais ces mots n'eurent pas l'effet escompté. Le regard de la femme devint brutal et elle dit d'une voix ferme qui le fit trembler « Je prie chaque jour pour qu'il ne le tue pas avant moi. » C'était donc cela, la vengeance. C'était cela qui l'avait fait tenir, qui lui avait donné la force de se battre, de gagner de l'argent, d'élaborer des plans. 2 ans d'attente avec sa vengeance bien cachée au fond d'elle-même. Tuée. Elle n'avait vécu que pour cela. Le commandant se passa la main sur le visage, il avait chaud. Il voulait se lever, faire quelques pas, lui parler de la vie qui lui restait à vivre, du passé qu'il fallait laisser derrière soi, parler du malheur, lui dire qu'on ne se venge pas d'une tempête ou d'un cataclysme. Mais avant qu'il n'ait pu le faire, elle reprit la parole et sa voix le gifla. « Ils m'ont fait payer le billet de mon fils, 1 500 $, commandant. 1 500 $ pour mourir de soif dans mes bras, comment voulez-vous que je pardonne ça ?» Le commandant ne répondit rien. Il ne se leva pas. Les phrases, les arguments qu'il avait préparés coulèrent hors de son esprit. Seuls résonnaient ces mots à elle. 1 500 $. 1 500 $. Il la contempla. Sans voix. Pourquoi Hussein Marouk ? Finit-il par dire. Si vraiment vous voulez vous venger, remontez plus haut. Vous l'avez dit vous-même, ce n'est qu'un homme de paille qui s'occupe des basses œuvres. » Elle répondit sans hésiter, comme si elle s'était déjà fait plusieurs fois cette réflexion et tenait sa réponse toute prête. « Je ne prétends pas que cet homme soit le seul coupable, dit-elle, ni même le plus coupable. Je dis seulement qu'il l'est, et que j'aurai peut-être le moyen de l'atteindre. » Le commandant pensa qu'à sa place, il aurait eu à cœur, avant toute chose, de se venger des membres de l'équipage. C'était eux qui avaient abandonné le navire. Eux qui avaient laissé pour mort des hommes et des femmes au milieu desquels ils avaient vécu. Il leur avait menti. C'était eux qui avaient tué l'enfant en ne laissant aucune réserve d'eau. Oui, sans aucun doute, il aurait essayé de retrouver l'équipage du Vitoria et il leur aurait fait payer leur saleté. Mais il ne dit rien à la femme, de peur de lui souffler des désirs qu'elle n'avait pas. Et puis, peut-être avait-elle raison. Qui était coupable ? À qui s'en prendre en premier ? L'homme qui avait voulu et organisé ce voyage avorté ou ceux qui, concrètement, s'étaient glissés en pleine nuit dans le canot de sauvetage sans faire de bruit ? Qui était à châtier en premier dans cette chaîne de responsabilité où chacun avait touché de l'argent sur le destin de Pouilleux condamné à l'agonie ? Elle avait décidé que Hussein Marouk devait être le premier. Peut-être trouvait-elle dans son attitude d'homme d'affaires une morgue et une arrogance supplémentaires. On pouvait espérer que les marins de l'équipage étaient parfois traversés par d'horribles cauchemars où les visages des morts leur léchaient les yeux avec avidité. Elle avait peut-être choisi Hussein Marouk parce qu'il était caché et qu'au crime, il avait ajouté l'obscénité de l'opulence. Le commandant chassa ses pensées de son esprit. L'important n'était pas l'identité des coupables, mais ce désir puissant qu'elle avait de frapper à son tour. Il pressentait que rien ne le ferait changer d'avis, mais il voulut essayer encore. « Vous allez ruiner votre vie, » dit-il. « Quelle vie ? » répondit-elle en souriant. « Vous êtes belle, » reprit-il. Et comme il ne voulait pas que ce qu'il venait de dire soit mal interprété, il poursuivit « Vous avez réussi le plus dur. Ne pas décider de mourir après la perte de votre enfant, rester en vie, vous battre. » Vous allez ruiner tout cela. Il y a une vie devant vous qui n'a rien à voir avec Hussein Marouk, une vie que vous ne devez qu'à vous et qui sera votre combat. Vengez-vous ainsi. Il vous avait condamné, vous vous êtes soustraite à la mort, vous avez gagné. Non, répondit-elle avec calme et gravité. Vous vous trompez. Si j'ai surmonté mon désespoir, si j'ai vécu pendant 2 ans en travaillant, en luttant, c'est parce que j'avais cette seule idée en tête. Je l'ai eu à l'instant même où ils ont jeté le corps de mon fils à l'eau. Ils paieront pour cela, me suis-je dit. Si je vis, ils paieront. C'est la vengeance qui m'a tenu debout. Elle m'a forcé. C'est elle encore aujourd'hui qui m'a fait vous suivre et vous demander une arme. Je n'ai qu'une crainte, commandant. Une seule qui me hante la nuit. Laquelle ? Demanda Salvatore Piracci avec empressement, car il pensait qu'une faille, peut-être, était en train d'apparaître et qu'il pourrait la convaincre de renoncer. Elle répondit les larmes aux yeux et les mâchoires serrées. « De ne pas avoir la force, lorsque je l'aurai devant moi. Faillir, au dernier instant. Alors, vraiment, je serai misérable. » Le commandant se leva. Il n'y avait plus rien à dire. La nuit était tombée sur Catane, étouffant les bruits et effaçant les couleurs. Il savait d'elle tout ce qu'il y avait à savoir. Il comprenait maintenant d'où lui venait l'obstination de son regard et la beauté de sa droiture. Elle resta assise, releva la tête dans sa direction et d'une voix d'enfant qui réclame un jouet, elle demanda « Vous allez me la donner ?»« Vous ne savez pas ce que vous dites, » murmura-t-il avec effroi. « La seule certitude que j'ai, » reprit-elle calmement, « c'est que je dois partir. L'heure est venue de retourner là-bas et de commencer ma traque. Cela, j'en suis certaine, ce que je ferai une fois là-bas, l'instant en décidera, mais je veux le voir. Depuis 2 ans, je le fais vivre en mon esprit. Depuis 2 ans, je m'en suis fait une obsession. Il est temps d'éprouver mes forces. La possibilité de le tuer me suffira peut-être. » Je me contenterai de l'observer à une terrasse de café, de le regarder rire avec une femme au téléphoné, en parlant fort au milieu de la foule. Le voir ainsi, à quelques mètres de moi, à savoir que je pourrais me lever, m'approcher, l'abattre, suffira peut-être à apaiser ma haine. Mais j'ai besoin d'éprouver la sensation que la vie de cet homme est entre mes mains. Même s'il doit ne jamais le savoir, même si je finis, qui sait, par payer mon café et disparaître dans la foule. Je veux l'avoir à portée de bras, à portée de balle, que sa vie dépende de mon bon vouloir, qu'il soit au moins pour un instant dans le creux de ma main. Il faut que j'aille là-bas, parce que j'ai besoin de rapprocher le canon d'une arme de sa tempe. Comment comptez-vous vous rendre là-bas ?
J'y ai longuement pensé, expliqua-t-elle.
J'ai suffisamment d'argent pour prendre un billet d'avion, mais il y a dans ce voyage quelque chose de froid et de rapide qui me répugne.
4 heures de vol à peine suffisent à rejoindre Beyrouth. Cette brièveté me donne le vertige. 4 heures alors que j'ai mis des jours à faire le voyage dans l'autre sens. Je n'ai pas le courage de vivre cette rapidité et ce confort. Il me faut davantage de temps. Je veux remettre mes pas dans les traces d'autrefois. Reparcourir la mer dans l'autre sens, avoir le temps de penser, le temps de pleurer et le temps de me durcir. Je veux arriver à Damas compact et dur comme une boule d'acier. Et puis il me sera difficile de monter dans l'avion avec une arme. Or, si vous me la donnez, j'ai décidé qu'elle et moi serons indissociables. C'est l'arme de ma colère que je tiens à bout de bras et qui fait de moi autre chose qu'une démunie que la vie renverse. Sans la regarder, le commandant dit alors avec une voix qui charriait de gros cailloux de mauvaise humeur « Si vous avez de l'argent, il n'y a rien de plus facile dans cette ville de fous que de se procurer une arme. Faites comme tout le monde, achetez-la dans une des ruelles puantes du port. » « Je la voulais de vous, » répondit-elle d'une voix froide en se levant. Le ton du commandant l'avait heurtée. Elle fut sur le point de répondre qu'elle n'était pas venue demander des conseils ni même la charité, mais se ravisa par égard pour cet homme qui lui avait offert son temps et son écoute. Il ne restait plus qu'à partir. Le commandant la regarda ainsi, droite, silencieuse. Il repensa à la phrase de son poissonnier, « Un fantôme vous a caressé ?» C'était cela, oui. Il avait fait entrer chez lui une ombre, et il était incapable de dire si sa caresse le brûlait ou l'apaisait. Elle vit ce regard. Elle n'avait pas prévu de parler encore, mais lorsqu'elle plongea dans ses yeux, elle comprit qu'elle pouvait tout demander. Alors, elle se remit à parler avec douceur pour lui laisser le temps d'abdiquer sans déshonneur. « Lorsque je vous ai aperçu au marché, dit-elle, je suis restée interdite. Tout remontait en moi. Votre visage n'a pas changé. Je revoyais d'un coup le pont du Victoria balayé par les lumières rouges de votre frégate. Vous étiez là, devant moi. Et c'était comme si ma vengeance se rappelait à moi. J'ai su en vous voyant qu'il fallait quitter Catane et entreprendre le voyage du retour. J'ai su que c'était de vous que j'obtiendrais cette arme, parce qu'il était juste qu'il en soit ainsi. J'ai su que les 2 années d'attente et de travail venaient de prendre fin. Je repars, commandant. Je suis contente que nous nous soyons revus. La boucle est bouclée. Vous avez été le premier visage de l'Europe. Vous en serez le dernier, je retourne là-bas. Je n'ai pas peur. Je veux quelque chose. De toutes mes forces. Je veux, jour et nuit, vous n'imaginez pas la force que cela procure. Je suis une petite femme têtue, commandant. Je me battrai contre la mer et le vent. Même les hommes ont cessé de me faire peur. Le commandant ouvrit la porte d'un placard du salon. Il en sortit une arme de poing enveloppée dans un chiffon. Ce n'était pas son arme de service qui restait toujours dans son casier à bord de la frégate, mais une arme qu'il avait depuis quelques années et qu'il gardait là sans l'avoir jamais utilisée. Dans cette ville, avait-il coutume de dire, mieux vaut avoir de quoi faire peur. Tenez, dit-il d'une voix sourde à la femme en lui tendant l'arme. Merci, dit-elle simplement. Ne me remerciez pas, murmura-t-il. Je prierai pour que vous ne vous en serviez pas. Vous savez bien que non, dit-elle avec douceur. Ces derniers mots le laissèrent muet. Elle ouvrit la porte, le regarda un temps avec calme et bonté, comme pour se souvenir à jamais de ses traits, puis elle disparut dans le couloir. Salvatore Piracci resta dans son appartement, incrédule. Il venait de donner son arme à une inconnue, et loin d'en être terrifié, il éprouvait un étrange et inquiétant soulagement. Debout, face à la fenêtre, il contemplait la nuit qui prenait possession des ruelles. Il revoyait son visage, réentendait les mots qu'elle avait prononcés. Pourquoi avait-il donné son arme? Un homme allait être abattu un jour, dans les rues d'une ville inconnue avec ce pistolet. Et si elle renonçait? Qui sait où l'arme irait finir? Dans la main de quel homme? Pour quel crime? Il repensait à son visage. Il y avait en elle une beauté solide et dure, la beauté de ceux qui ont décidé de leur route et s'y tiennent, la beauté que confère au regard la volonté. C'était bien cela. Elle était comme un bloc dur de volonté. Son désir lui illuminait le visage. Il se sentait vide par rapport à elle, d'un vide confortable qui le dégoûtait.